Sur quelle base artistique réhabiliter les fonctions intrinsèques de l'art dans la société? Au terme démocratie culturelle, pourrait-on substituer le terme démocratie des cultures, accepter enfin l'impossibilité d'une solution culturelle homogène et nous concentrer sur les interactions entre les diversités et leur potentiel créatif?
François se pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous avez toutes les réponses. Alors, répétez la question. Il y en a beaucoup, donc on ne va peut-être pas toutes les répéter. Mais je vous propose d'intervenir sur ces questions, de vous donner votre point de vue.
Troisième paradoxe. Oui, non, mais c'est ça, oui, mais baisse un peu le son. Troisième paradoxe. Je ne peux pas te répondre aux questions que tu poses parce que c'est de l'écrit. Et devant cette somme d'écrits, je ne peux pas répondre comme ça par de l'oralité. Un, deux. Non, mais c'est trop fort. C'est une sono Peugeot. C'est une sono de lutte. Bon, et là, vous entendez quelque chose? Oui, je c'est pas possible, pour moi, de participer à la moindre réponse que ce soit aux questions que tu poses par l'écrit, parce que je ne peux pas répondre. Il faudrait que j'aie le texte devant les yeux et que je passe 3 jours à travailler. Ça vaut le coup, je reconnais. Oui, non, mais d'accord. D'accord. Mais pour ce qui est du paradoxe que tu dénonces, que tu expliques et dans lequel tu tombes aussi à ton tour, forcément, je ne peux pas te répondre comme ça parce qu'il faut que j'analyse ce que tu viens d'écrire. Et donc, je trouve au moins, ou pas forcément une réponse, mais une dialectique quoi, aux questions que tu poses qui sont évidemment que j'ai pu deviner comme pertinente, mais j'ai pas l'esprit qui va assez vite pour pouvoir répondre à la somme de la pensée du temps que tu as passé à écrire ce truc. Voilà. Ce qui est un des problèmes culturels, notamment entre l'écrit et l'oral, quoi. Et donc dans la rencontre publique et dans ce qu'on appelle culture avec un S, comme tu dis, quoi. Alors, je ne peux pas répondre à la maestria. Je suis un peu comme quand tu fais un chorus de sax. Je suis devant, je dis, putain, fabuleux. Mais qu'est-ce qu'il joue là? C'est ça. Et cette subjectivité, il la faut, évidemment, pour que je me demande. Parce que ton texte me fait me demander qu'est-ce que je me demande en face de ton texte. Je me demande, tu sais quoi, que je veux de l'avoir chez moi écrit et que je vais y réfléchir et je vais y bosser. Eux, ils n'en ont peut-être rien à secouer parce qu'ils sont passés par là. C'est peut-être pas le... Mais ça pose la question... Oui, de la question, c'est tout. Et je n'ai pas de réponse à ta question. Par contre, elle m'inspire. J'imagine ce que ça peut être un mec quand il écoute un de nos chorus, qu'il est en face de lui, putain, c'est musique élitiste. Donc, qu'est-ce que c'est la problématique culturelle? Parce qu'il va être devant un truc, je ne connais pas les tenants et aboutissants. Vous n'avez rien compris à ce qu'il a dit, hein? Si, vous avez compris que vous n'avez pas compris. Non, mais c'est pas mal. Non, mais parce qu'en même temps, il y a aussi la problématique de la sono Peugeot, puisque c'est inclus dans la problématique culturelle, la précarité, non? Ah, parce que s'il faut avoir le confort préétabli pour chercher à comprendre, on va dans les châteaux ou on va dans les studios ou on va dans les lieux hautement équipés pour que ça soit facile à comprendre. C'est ça aussi, c'est de la même manière qu'on va faire, on va essayer de jouer tout à l'heure sous la pluie, peut-être pas. Alors qu'il y a des théâtres qui sont à l'abri. Et pourquoi notre bagarre se trouve justement pas à l'abri? Peut-être quand on est à l'abri, on se bagarre pas de la même manière. Ça aussi, c'est culture avec des S. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je suis énervé, mais... Non. Il faudrait que tu édites ce texte, que tu l'imprimes et qu'on le réfléchisse.
Juste une chose, de toute façon, la question de la compréhension, c'est comme l'improvisation, c'est comme la production artistique, c'est une progression, il faut accepter ça. Moi, j'attends pas. Voilà, je fous la merde simplement avec ce texte. Et non, mais c'est-à-dire que justement aujourd'hui, il faut absolument donner une réponse tout de suite. C'est aussi le piège qu'on essaye de, dans lequel on essaie de nous mettre tout de suite. Est-ce qu'il faut absolument voter tout de suite? Il faut aller, je continue dans la provoque. Est-ce qu'il faut absolument voter tout de suite Ségolène Royal pour échapper à, etc. On nous demande de faire un choix définitif le plus vite possible, sans progression possible de l'élaboration de la pensée, de la réflexion, etc. C'est aussi un peu ce que dit ce texte-là. Ce texte est un... Je suis conscient de ce que tu dis. J'ai bien vu, j'ai bien compté le nombre de questions. Moi-même, en arrivant à la fin du texte, j'avais oublié les premières questions que je me posais dedans. Donc, je sais, mais c'est exprès. C'est-à-dire que c'est aussi pour ouvrir un champ de réflexion. Il faut peut-être une vie pour répondre à toutes ces questions. Il me faudra une vie pour répondre. C'est aussi ça que je veux dire. Et il faut assumer ça. Mais ça passe par un processus justement démocratique d'acceptation, de réciprocité et d'être dans un processus collectif qui ne soit pas dogmatique, dans lequel il n'y ait pas une solution définitive, immédiate, une solution de facilité, par exemple, de voter pour celui qui a la plus grosse tout de suite parce qu'on sait qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il a la plus grosse, donc ça pourra toujours servir. Voilà. On sait très bien ce qu'il va faire, en l'occurrence. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ce texte est très compliqué. Je sais qu'il est compliqué. Je savais que ça prendrait du temps. Mais c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas obligé d'y répondre. Par contre, on peut donner des réponses partielles qui, peut-être dans 10, 15, 20 ans, pour les gens qui sont ici ou pour moi-même, serviront. Quoi, voilà. Donc la démocratie culturelle, elle sert à garantir cet espace-temps, à protéger cet espace-temps de manière à ce qu'on puisse avoir le temps de se poser et de répondre à ces questions.
Attends, je venais à mon tour te poser une question. Quel est le présupposé de l'intitulé démocratie culturelle? Tu sous-entends sans doute qu'il n'y a pas de démocratie vis-à-vis de... Ou quel est le problème démocratique vis-à-vis de la conscience culturelle, quoi. Ça veut dire quoi? La question sur la démocratie culturelle, ça veut dire qu'on n'est pas à égalité devant la conscience de la culture ou la connaissance de l'ensemble de ce que se présuppose le vocable?
Ça veut dire, par exemple, qu'il y a une certaine confiscation de la culture, une vision assez élitiste de la culture qui la réserverait à quelques-uns. J'ai un exemple. C'est Julien Lauprêtre, le président du Secours populaire français, qui me disait que... Alors, le SPF fait beaucoup d'aide en matière alimentaire, mais ils avaient engagé aussi un processus... d'intervention sur les questions culturelles. Et il distribuait des bons spectacles, notamment pour des spectacles de théâtre. Et ils se sont rendus compte que les gens n'y allaient pas. On leur donnait des bons, ils n'allaient pas au spectacle. Ils se sont interrogés, ils leur ont posé la question, mais pourquoi vous n'y allez pas? Et la réponse qui a été donnée à Julien, c'est « Oui, mais le théâtre, on ne sait pas comment y aller, on ne sait pas comment s'habiller. » Donc, la culture, elle est souvent confisquée, elle est souvent réservée à quelques-uns. Comment l'ouvrir, comment la partager, c'est, à mon avis, un des enjeux essentiels de la démocratie culturelle.
Moi, je crois qu'il ne faut pas confondre. Ça, c'est un des enjeux de la démocratisation culturelle. Je n'ai pas envie de jouer sur les mots, on n'est pas là pour ça. Mais quand même, démocratisation culturelle, ça veut dire aller consommer du théâtre dans un machin qui n'est pas fait pour toi. Le comité d'entreprise qui se force à ce qu'on aille dans un truc où les gens n'ont pas envie d'y aller, puis comme c'est le seul programme qui est prévu, que ça n'a pas été trop discuté, le billet est gratos, puis on y va, où il n'est pas cher, parce que c'est un peu plus fin. Ça, c'est des formes de démocratisation culturelle qui ne posent pas la question de la culture. Comment aller à la culture si on est nié? Moi, j'ai entendu, c'est vrai, je suis comme Bernard, j'entends dans ce texte aussi tassé, je ne peux attraper que des trucs. Il te faut, t'as fait 3 heures, maintenant il te faut 30 jours pour écrire le bouquin qui va avec. Hein. Tu commences à répondre aux questions, si tu gourres, on fera les rectifications publiques. Bon. Mais quand même, comment aller à de la culture si soi-même on est réputé pauvre de culture? Pauvre de nourriture, mais pauvre de culture. Quand tout le monde a de la culture, ça c'est le béaba, mince! La culture c'est tout le monde, c'est la spécificité de l'être humain. C'est le contraire de la nature. La culture, c'est tout le monde qui en a. Tout le monde est riche. Pas de la même façon, hiérarchisé, j'ai entendu au passage. Ouais, vachement hiérarchisé. Et même, on te fait croire que Celta, celle que tu as, c'est pas la bonne. C'est celle qui sent pas bon, qui est pas bien habillée, qui risque foutre le bazar dans un truc qui est codifié quand même. Ça a tellement été travaillé par des générations du patrimoine et tout le reste que quand même... Bon, c'est pas la tienne, quoi. Alors, en fait, ces assassinats par déni de culture. La première des choses, c'est que dans ce pays, il y a déni de culture des gens. Il y a déni de ma culture, de ta culture, de la vôtre. D'ailleurs, personne n'est assez cultivé pour profiter jusqu'au bout de ce qu'il voit. Ça, c'est clair. Et même à Uzest, je le sens dans le public, il y a toujours, on a beau s'efforcer, hein, mais il y a toujours un complexe d'infériorité qu'on trimballe avec soi. Je ne sais pas qui nous l'a mis, mais on le trimballe tous. Je le vois, regarder à vos pieds, attaché une chaîne, un boulet au bout. On l'a plus ou moins gros les uns les autres. Mais on a ça. Peut-être qu'on n'est pas capable d'être à ce niveau. On est quand même venu. Alors d'abord, il y a ça. Et puis le deuxième point, oui, il faut ouvrir les volets sur les autres. Pas confondre non plus culture et la création. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et la création, il y en a partout. Dans le boulot, quand on fabrique un instrument de musique ou une boîte de conserve, même. Dans le travail d'un musicien ou d'un poète, la création, c'est possible. C'est justement le moment du travail où on prend des risques, la création. Justement, où ça commence à chauffer et quelquefois même à sentir mauvais, on se demande si on ne va pas changer d'habit. Je crois que la question à ce moment-là de la démocratie culturelle, c'est engager la question de la démocratie dans tous les actes culturels, ceux des artistes, ceux du patrimoine, mais ceux des gens qui sont réputés ne pas avoir. Engager la question de la démocratie. Alors comment? Pas la démocratie à l'accès seulement. Parce que ça, il y a eu des... C'est l'échec, hein. Actuellement, c'est l'échec. Sociologiquement, tous les chiffres le montrent, les pratiques culturelles des Français. Depuis Malraux, on est arrivé à... On n'y arrive plus. Il n'y a pas plus de Français qui lisent. Il n'y a pas plus de Français qui vont au théâtre ou à la danse. 4% pour la danse. Il n'y a pas plus de machin. On est au top, là. Il y a une espèce de frein dans la société qui est coupé en deux. Et même, dans certains endroits, depuis 2 ou 3... Depuis 5 ans... Sur la lecture, ça régresse, c'est vous dire. Alors que la bibliothèque est l'établissement culturel préféré des Français, à 73%. Voilà où on se trouve aujourd'hui au niveau de la culture et de la démocratie. Il va bien falloir inventer autre chose pour aller plus loin, pour casser ces images. Et moi, je crois que c'est en posant des questions de où est-ce que c'est la culture, à qui ça appartient, à qui c'est, que des débats peuvent s'engager, qui peuvent faire avancer les choses, et faire avancer les choses avec tout le monde. Des artistes qui vont loin et des gens qui se mettent à se dire qu'ils vont se mettre à aller loin en s'y mettant ensemble parce que quelqu'un, quelque fou leur a dit que c'était peut-être possible, que c'était le moment. Et c'était le moment sans avoir les bonnes conditions. Parce que si on attend la prochaine Ségolène, je ne sais pas si elle sera homme ou femme, on risque d'attendre encore d'élection en élection que les conditions arrivent. En tout cas, les tyrannies, moi j'ai envie de dire la démocratie, c'est une drôle d'histoire dans la culture et dans la création, en particulier dans la création. Plus je fréquente les artistes, plus je trouve que ce sont des tyrans. D'abord avec eux-mêmes, ensuite avec leur entourage. Ensuite, c'est des tyrans qui mettent les cartes sur la table en disant « Ouais, il faut y aller, et vous, si vous deveniez aussi des tyrans ?» Il y a quelque chose d'une... Vous comprenez ? C'est un paradoxe qui se met en place. Vous voyez, un paradoxe, une contradiction. Ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, ça. C'est une contradiction. Mais celle-là, il faut la regarder en face. Je crois que si on est totalement démocrate, quand on crée, la création, ça devient de la soupe un peu. Alors on a besoin que de temps en temps, il y en ait un qui prenne la cuillère et qui tourne.
Alors de la tyrannie au service de la démocratie, tu vouliez parler ?
Oui, c'était déjà pour partir de la situation problème dans laquelle François nous a mis. Moi, je pense que ça, c'est un point important à réfléchir. Il a passé du temps à réfléchir, mais il a écrit. Et il nous a dit, si vous pouvez m'aider à comprendre ce que j'ai écrit, merci. Et c'est vrai, parce que quand on écrit, notre plume dépasse notre pensée consciente. Donc ça veut dire que quand on écrit... on sort des choses qui sont à l'intérieur de nous et qui ne sortiraient pas si on n'avait pas écrit. Seulement la question, c'est qui écrit aujourd'hui ? Nous, on pense que tout le monde peut écrire. Ici, on est bien connu pour ça, mais c'est pas qu'un slogan. Je crois que quand on parle de démocratie culturelle, c'est aussi se dire que dans un monde, dans le monde qui nous entoure, tout le monde doit avoir cette capacité à se dire « je peux penser ». Et si je peux penser, je peux décider, je peux parler avec les autres, et que l'écriture est un élément qui doit être donné à tout le monde. Et ça, c'est un des éléments de la démocratie culturelle. Alors, moi, je voudrais revenir sur... et c'est bien, tu as commencé par travailler sur la définition de la culture en parlant de paradoxe, de hiatus. Et on est tous dans ce monde de paradoxe et de hiatus. Et ça, il faut l'accepter, le vivre et puis l'intégrer. La culture, ce n'est pas des strates qui sont, qui, comme tu as dit, hein, c'est pas, les strates, c'est facile, ça on comprend bien. Mais après, c'est tout ce qui se passe en transversalité, etc. Et donc. Moi, comment cette notion, on l'a travaillée, nous, puisque c'est dans la CGT, au niveau du secteur culture confédérale, qu'on a travaillé cette notion de démocratie culturelle depuis assez longtemps, depuis quelques années, parce que la question de la démocratisation de la culture, ça ne nous convenait pas, ça ne nous convenait plus. C'est vrai qu'il faut une démocratisation de la culture, mais on a bien vu ses limites. La démocratisation de la culture, ça fait que... on peut venir à Uzest comme on veut, et même c'est gratuit, parce que les débats, c'est gratuit en plus. Donc on peut discuter, rencontrer n'importe qui, rencontrer comme hier, ou un joli artiste, ou un bel académicien des sciences, ou un cinéaste génial, etc. Et puis on discute d'égal à égal. Tout le monde peut le faire. Et pour autant, tout le monde ne le fait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps, on pourrait donner gratuit à tout le monde l'entrée partout. Il ne le ferait pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des manques quelque part. Et cette idée de démocratisation de la culture, si elle reste importante, elle a ses limites. Elle a ses limites avec ceux qui vont participer. Et l'idée de démocratie culturelle, alors Michel est bien revenu dessus, c'est vraiment comment c'est tout le monde qui va être acteur de la démocratie. Mais pas que de la démocratie au niveau de la culture artistique. On est bien d'accord. Parce que pour nous, la culture, c'est la culture dans tous ses états. La première culture étant celle qu'on rencontre à la maison, dans son pays, etc. C'est l'éducation, toute l'éducation qu'on reçoit, toute la formation initiale, la formation continue et culture, la formation scientifique, la culture scientifique, la culture technique, la culture du travail, dans le monde du travail, la culture citoyenne, la culture politique. Enfin, je crois qu'il faut qu'on décline ces cultures parce que les strates, c'est une chose, mais elles se mélangent en permanence. Elles se brassent. Et si on n'a pas cette réflexion où il y a le brassage, on est planté. Donc, l'idée de démocratie, de la démocratie de la culture, ça serait comme la culture pour tous. Alors que la démocratie culturelle, dans notre idée, mais ça c'est une idée aussi qui est un peu neuve, ça fait 2-3 ans qu'on la travaille avec Alain Delmas, avec bon, quelques copains, tout ça. Et puis que le congrès de la CGT a fait sienne cette idée-là, mais c'est aussi une idée qui n'est pas forcément entendue de la même manière par tout le monde. Donc on a besoin... Aïe, aïe, aïe. Alors, on disait donc, ça sera ma conclusion momentanée. Si les idées sont géniales, à un moment donné, ce sont jamais des vérités toutes faites. C'est jamais des vérités. Elles sont toujours à compléter, à retravailler, etc. Donc cette idée de démocratie culturelle, c'est vraiment une idée à débattre ensemble. Donc la démocratisation de la culture, c'est la culture pour tous, alors que la démocratie culturelle, ça serait la culture par tous, c'est-à-dire tous capables d'être acteurs de la culture, de cette mondialité dont on se réclame. Nous sommes une mondialité avec une culture, avec des cultures, et puis on a besoin d'être tous acteurs de ces différentes cultures. Si demain on a une démocratie participative, et s'il n'y a que les instituteurs, les pharmaciens qui viennent, ben, ça sera bien, ça sera mieux que rien du tout. Mais il faudra qu'il y ait tout le monde aussi, voilà.
Peut-être que la culture pour tous, est-ce que c'est pas une question contradictoire, c'est-à-dire même néfaste, puisqu'on vient de le dire, tout le monde a sa culture. Et est-ce que la question ce serait pas comment avoir accès à sa propre culture ? Une question, on pourrait faire un sondage comme ça. Moi, je parle beaucoup du Uzest. On en parle comme quand on est à table, qu'on a un bon repas. Et on parle de bouffe. Et on parle du ZEST. Et UZEST, pour moi, c'est une utopie réalisée. Je suis sûr, hein, tous les ans, que l'utopie, elle est là. Ça échappe même à la définition de l'utopie. C'est-à-dire qu'elle est même réelle. On en parle et il y a si peu de gens qui viennent. Ce n'est pas en soi regrettable, parce que si tout le monde venait, ce serait le bordel. Et on serait dans la structure. Mais en même temps, c'est proprement... Et je me disais, quand, avoir les sourires hier soir et tout, et c'est tous les ans pareil. Et je me dis, mais pourquoi, là où c'est merveilleux, tout le monde ne vient pas? Et est-ce que la seule question, c'est comment on vit sa culture, on l'assume? Et c'est, ça ne peut pas être un mot d'ordre. C'est proprement de la culture au sens du jardinage, de soi-même. Et comme ça, en discutant, je me dis, la culture pour tous, c'est peut-être une question diabolique.
Non, c'est pas une question, juste un mot, c'est pas une question diabolique. Mais je te dirais que pour découvrir sa propre culture, eh ben, c'est terrible, mais il faut en rencontrer une autre. Et c'est pour ça qu'en venant ici à UZEST, il y a plein de gens qui se disent, tiens, mais je suis de là, et je suis de là, et il faut que ça change, il faut que ça s'améliore, il faut que ça bouge, et je suis de là, et il y a déjà du bien là sur lequel je vais m'appuyer pour que ça change. Mais si tu restes dans ta culture, c'est le communautarisme que souhaite Sarko Machin, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Bah si, mais bien sûr, c'est toujours difficile. Mais bon, c'est dangereux les échanges.
Bon, moi, il me semble que déjà, on parle de la culture pour tous, mais moi, je ferai une différence entre culture et histoire de la culture. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait... On parle parfois, on dit, bon, il faut donner la culture à tout le monde, par exemple, dans le milieu scolaire, à tous. Mais en fait, on va parler de l'histoire de la culture. Parce que la culture, elle s'agit, elle agit, elle se vit. Elle s'agit et elle est toujours collective pour moi, même si les acteurs de cette culture ont l'impression d'être des individus bien distincts. Ils sont en fait dans un mouvement culturel qu'on va apercevoir plus tard et qu'on va arriver à classifier éventuellement dans l'histoire de la culture. Donc, est-ce qu'on ne voudrait pas réduire, par exemple, en nous disant que dans l'éducation nationale, il ne faut enseigner que ceci, ceci, cela, et limiter? À ce moment-là, effectivement, on va parler de l'histoire de la culture, on ne va pas faire de la culture.
La culture pour tous ou la démocratie culturelle, d'accord, je suis d'accord pour tout ça. J'entendais Bernard qui disait hier qu'il y avait un filon d'artistes qui était né dans les bistrots. Moi, je suis né dans un bistrot, journaux, articles fumeurs, loterie, ouvert 365 jours par an. Ça a posé quelques problèmes culturels, mais ça a plein d'avantages aussi. Mais c'est pas ça que je voulais dire. J'habite en Normandie, dans un village, et je trouve que dans les villages, si on veut pas s'isoler, on est obligé d'aller vers les gens. Et effectivement, faut apprendre aux gens, enfin c'est une question d'éducation tout ça, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens à aller vers l'autre. Et quand on est étranger, il faut aller vers l'autre. Moi, c'est ce que j'ai compris depuis longtemps. Et quand j'arrive quelque part, je vais vers l'autre. Quand je me balade, je commence par essayer de repérer le bar autochtone, le plus autochtone qu'il y a dans le bled, pour aller boire mon café et lire mon journal du coin. Et puis, petit à petit, les conversations peuvent se nouer au comptoir et ainsi de suite. Donc moi, je trouve que, de toute façon, à partir du moment où on est conçu, c'est déjà culturel. Nos parents ont une histoire, nos arrière-grands-parents ont une histoire, etc. Et je trouve que ici, c'est magique. Ça fait un petit moment que je traîne que je viens ici, de l'extérieur, de l'intérieur, de loin, de pas loin. Et c'est vrai ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, qu'il avait vu des visages radieux hier soir. Et moi, j'ai retrouvé des visages radieux hier soir. Et puis... les balles, les morceaux, les thèmes, en tout cas, je les entends depuis que je suis venu pour la première fois ici. Mais c'est jamais la même version. C'est toute la différence de la variété. C'est jamais la même version. Et puis, ce qui était important aussi, une fois à l'Estaminet, j'avais discuté avec le guitariste de Joe Privat, et qui me disait qu'à l'époque, il avait une entreprise dans la région parisienne qui s'appelait Fils et Père. Et j'avais trouvé ça assez intéressant comme idée, c'est plutôt père et fils. Et effectivement, la culture se transmet de père en fils. Et quand les fils transmettent de la culture à leurs ancêtres, c'est là où ça fonctionne véritablement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai échange entre les générations et que la culture avance et que la culture se construit.
Bon, je pense que d'autant plus que on est à peu près tous d'accord sur le fait que la culture, c'est quelque chose de subjectif qui se transmet. Là-dessus, je crois que la définition, hein, ça serait infini, c'est-à-dire que ça serait aussi infini qu'il y a de gens ici d'en parler. C'est-à-dire que moi, je parle pas du public, je parle des gens qui m'écoutent jouer. C'est-à-dire que c'est une somme de personnes et à chaque somme de personnes, il y a une façon d'écouter, etc., qui se conjugue par la communication, par les bilans que font les gens entre eux, etc. Donc c'est infini. C'est ça. Ça, c'est une chose. Mais moi, je voudrais recentrer un petit peu sur qu'on parle du terme de démocratie. C'est-à-dire que le terme de démocratie, c'est un terme spécifique qui veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qui définit un modèle de fonctionnement d'une société. Hein. Donc, étymologiquement, démos, le peuple, crassie, le pouvoir, hein, c'est ça, quelque chose comme ça, c'est loin, le grec. Ce qui m'intéresse plus, c'est la juxtaposition du mot démocratie et culturel, et d'essayer de comprendre un peu, enfin, en tout cas, moi, mon problème d'artiste, c'est d'essayer de comprendre comment je me place dans cette... quels sont les mécanismes qui régissent mon rapport à la République, à la société dans laquelle je fonctionne selon un certain modèle économique, selon un certain modèle constitutionnel, etc. Et on a des institutions, on a des structures, on a officialisé des structures et ça nous met, nous, artistes, sous une certaine contrainte. Donc, quelle réponse on donne, quelle réponse on donne par rapport à ça, etc. Donc, si on pouvait... essayer de voir quels sont les rapports de conséquences entre démocratie et culture, en quoi un modèle politique génère une certaine culture ou inversement d'ailleurs, hein. Voilà, donc peut-être que il y a des choses desquelles on pourrait parler là-dessus.
Peut-être là justement il faut renverser les choses. On cherche le modèle politique dans la démocratie pour l'appliquer à la culture. Moi, je crois qu'on a une chance extraordinaire avec ce que vous avez inventé la CGT, les mots démocratie culturelle, c'est qu'on va peut-être pouvoir enrichir la politique. C'est l'inverse. Ce qui s'invente du côté culture au sens de création, là, ici, c'est un droit inaliénable de la minorité à faire quelque chose dans une démocratie. C'est fini, vous êtes battu aux dernières élections. Vous n'avez plus le droit de faire quoi? On vous demande de même pas vivre. Où est le droit de la démocratie? Eh bien, la démocratie culturelle, justement, du point de vue des artistes et de la création, c'est de dire qu'une minorité peut faire des choses et que ça enrichit les majorités établies et que ça enrichit le débat et que quelquefois, ça l'allume, le débat. Vous comprenez comment la culture, aujourd'hui, les questions culturelles, elles sont de taille à transformer la démocratie politique, la vieille démocratie grecque qui est un peu arrêtée là sur l'autoroute des progrès humains. Je crois que c'est extrêmement important, cette idée-là. Et là, il n'y a plus d'avant-garde, là. C'est plus une avant-garde. C'est une question d'urgence.
Alors moi, je crois que ce n'est pas une question de majorité ou de minorité, parce qu'on est tous des acteurs culturels. On n'est pas tous des artistes, on est tous des acteurs culturels. On intervient tous. On a tous une culture familiale, une culture du travail. Mais pourquoi cette culture-là, on la porte? Et on ne la met pas en débat, on ne la partage pas. Pourquoi Bernard Luba tout à l'heure disait que il y a des groupes de gens ici qui viennent à l'Estéjade et qui ne partagent pas les débats, qui n'interviennent pas. Alors pourquoi, alors qu'on est tous acteurs de culture, pourquoi on peut pas tous partager des choses?
Culture au pluriel, politique. Il y a un mot que j'ai l'impression que je l'ai pas entendu cette année, c'est le mot technocratie, et que je pense que si on le prend pas en compte, on règle pas la question aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que la technocratie s'installe par l'évaluation, notamment les procédures, et que je pense que on peut toujours donner des évaluations, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qui décide, qui construit le champ du discours, et c'est aujourd'hui la technocratie. Et elle est sourde. On pourra toujours, j'entendais hier un jeune homme qui disait, mais on peut toujours donner des évaluations et tout ça. Et je vous prie de croire en culture au pluriel, au travail notamment, pour ce que je connais, vous pouvez toujours y aller. C'est le tonneau des Danaïdes. Et je pense que c'est un processus de technofascisme. Et que dans ce sens-là, le politique, tant qu'on ne se bat pas contre ce processus technocratique, modernisé par l'ingénierie, les choses comme ça, on pourra toujours débattre, mais on ne fera que débattre et on sera battu. On est tous en travail, en culture, à la maison, sur une normativité qui devient technocratique, c'est-à-dire quelque chose d'évaluable, d'évalué. Les sourires d'hier soir, ça ne s'évalue pas. C'est pas possible. Et on pourra toujours donner des chiffres. C'est pas possible d'évaluer ça. Et je pense qu'on est dans un monde de sourds. On est tous sourds. On s'adresse à des sourds. Je crois que c'était Novarina qui disait à force de communiquer, il y a quelque chose, je ne sais plus la fin de la phrase, mais ça va sur le morbide. Le mot communiquer en soi. C'est pas dialoguer.
Je prends la parole juste un petit moment parce que je ne sais pas pourquoi, mais je te la passe après. Ça fait longtemps que je n'ai rien dit alors. Non, pas sur cette idée de culture. Dans un village où quand on change de village, depuis quelque temps, on a des ennuis qui font qu'on change de village. Et c'est pas mal en même temps, parce qu'on avait déjà changé de village avant les ennuis. On avait déjà deviné que de changer de village, changer de visage, donc on avait affaire à d'autres. Et ici, on arrive dans un village, alors on ne connaît pas très bien les gens, les associations qui bossent là, et qui dans la fête, et qui il paraît d'ailleurs qu'ils se sont tous réunis en association par rapport aux problèmes posés, que d'habitude ils sont tous séparés, ils ne font jamais des choses ensemble. Là, ils se sont mis ensemble pour travailler, bon, pour faire des recettes, certes, pour faire des sous, peut-être pour faire avec leurs associations des choses qui peuvent leur servir pour plus tard. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont précipités au spectacle ou au débat. Peut-être qu'il faudrait plusieurs années de fonctionnement ici contradictoire comme ça pour que les gens se disent, tiens, si j'allais voir un peu en bas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on l'appelait la scène d'en bas. Ici, ça serait la scène d'en haut, le forum villageois, puis la scène d'en bas, là-bas, ça serait où là-bas, en bas, là-bas, là-haut, là-haut. Donc c'est l'endroit des artistes, c'est-à-dire que toujours dans la mêlée, quoi, plus bas que terre. Et donc je vois bien ce qui est étanche. On a un mal fou. La culture, c'est de l'identité. Enfin, c'est ce qu'on en croit. On croit qu'on a une identité. Moi, je préférais qu'on pense qu'on a une identité. Comme ça, on serait moins d'accord avec soi-même. On croit qu'on a une identité. Bon, c'est pratique. Mais si on se met à penser sur son identité, on est moins sûr. C'est peut-être plus passionnant d'ailleurs, parce que c'est plus complexe. Et peut-être même plus érotique de penser sur soi que de croire en soi. Et cette question de la culture, c'est un rapport évidemment avec la personne, avec l'individué. Pas l'individualiste, hein, l'individuation, la personne, l'individu. Chaque individu est une culture en lui-même. Même s'il fait semblant d'être d'accord avec sa compagne ou avec son beau-frère, il sait qu'il est mortel, que c'est personnel, cette histoire, qu'on n'accepte pas d'être mortel. Et on a bien raison, enfin, pour l'instant. Donc, c'est ça qui se joue entre nous. Je dis bien entre nous, pas entre moi et l'autre. Non, ça se passe entre. il y a tous ces espaces qui sont entre. Et que c'est peut-être ces espaces-là que l'artistique, qui n'a rien à foutre, qui est un peu débile, quoi. L'artistique, il est un peu idiot, quoi, sur le plan du résultat, sur le plan des additions justes, sur le plan des solutions exactes. C'est un abruti, quoi. Enfin, c'est la case de libre. Et donc, c'est ce que tu appelais l'utopie, c'est peut-être cette... Enfin, j'essaie de réfléchir pourquoi je fais ça, moi, depuis 30 ans. Je n'ai pas l'impression d'avoir avancé d'un pouce. Et puis même parfois, quand personne me regarde, je m'en félicite. Pourtant, je pensais que j'étais progressiste. Mais il y a peut-être un progrès là-dedans quand même. Je ne sais pas où, mais il est incurvé. Peut-être qu'il ne sait pas un progrès en termes d'addition. C'est un progrès en termes de multidimension. Je ne sais pas où il est. Mais il y est parce que je vois bien que les rapports se complexifient. Depuis 3-4 jours ici, il y avait des préjugés avant qui se sont vite révélés comme d'hab. Des préjugés normaux, c'est l'autre, l'étranger, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va être, ça, les Zoulous qui débarquent. Et puis tout ça se transforme par la pratique. Justement, toutes les croyances se mettent un peu en berne parce qu'il y arrive la pensée qui vient de la connaissance, de l'acte, de ce qui se passe, quoi. Et comment faire? Justement, ma question, moi, c'est de... Quand je gueule pour les subventions, c'est surtout pour continuer à avoir trouvé... Parce que sans ça, on peut voler de l'argent à des banques ou je ne sais pas où en trouver, mais il faut trouver de l'argent à dépenser pour créer ce genre d'intervalle, puisque ça coûte des sous, quoi, de dire qu'il ne faut pas de sous. Aujourd'hui, ma culture, c'est surtout qu'il ne pleuve pas, par exemple. Manque de peau, tu vois. Alors, les copains, ils sont là-bas. On devait jouer à 3h, il est 3h10. Et sur la scène, il y a des poissons rouges et tout. Bon. On va voir comment on peut jouer tout à l'heure dans une heure et quart, une heure et demie. Et puis, c'est con parce que les copains viennent de loin pour jouer. Il y a même Vielle qui est arrivé, Didier Petit, Yannouk. Enfin, je ne sais pas comment on va faire. En même temps, si on avait un chapiteau super utilant, qu'on serait tous à l'abri, qu'on aurait eu tous les subventions parce que le conseil général serait heureux de faire de la plus-value avec nous, que ça serait dans la poche qui se ferait réélire, etc., 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 ben, y aurait un concert qui serait à l'abri. En même temps, on ne serait plus dans les rapports utopiques, comme tu disais, entre nature et culture. Dans cet intervalle entre l'un et l'autre, où il y a il y a peut-être l'endroit où ça serait par l'art. Ça serait par l'art. C'est-à-dire un endroit qui n'est pas gagné, puis qui n'est pas évaluable, en tous les cas, par les principes habituels de l'évaluation, quoi. Comment on évalue la tendresse, l'amour, la haine, à la fois le mépris, va savoir où la méprise, tout ça, ça s'évalue, comment ça se chiffre, je ne sais pas trop, quoi. En même temps, si ça ne se vit pas, il vaut mieux carrément monter un festival de psy, quoi. Moi, il y a pensé quand même. Parce qu'il en vient des psys, mais ils viennent pour se mettre sur le divan. C'est vrai, oui. Hein, tu vois, on les a allongés. Oui. Oui, un jour, il y a un psy de Bordeaux, un type extraordinaire. Il voulait me faire une. Oui, c'est ça, tu te rappelles de ça? Il voulait faire une quoi? Enfin, je sais pas, un genre de. Oui, il voulait m'analyser. Alors, j'arrive à l'estaminet, il était prêt à faire l'analyse. Et j'avais le divan, et moi, je m'allonge sur le divan. Abriba, il s'appelait, ouais. Ouais, Jean-Paul Abriba. Je m'allonge sur le divan et j'étais très fatigué. Puis quand je me suis installé sur le divan, je me suis dit, putain, c'est bien, je suis bien là. Et il attendait que je... Il était à côté de moi, il attendait que je parle, quoi. Et moi, je me suis endormi. Et il s'est mis à parler, ça l'a rendu fou, il a fait un numéro fabuleux. Ça s'appelle un renversement dialectique, ils disent les marxistes. Alors, l'idée que je me faisais, mais qui s'apprend au fur et à mesure des années, c'est que par rapport à cette complexité des rapports entre les identités culturelles différentes, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, qu'il fallait... de beaucoup d'humour, quoi. J'ai mis du temps à avoir de l'humour sur ce sujet. Parce que pendant longtemps, on est vexable, quoi, c'est normal. Mais il faut avoir été longtemps incompris pour comprendre. Le film que Thomas nous a montré tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il a été tourné demain. Ça fait peur. C'est vrai, toi. Oui, c'est pas vrai. Voilà, et alors on continue, parce que c'était juste un aparté. À vous la parole. Peut-être que le système CGT, tu vois un peu. J'aurais bien voulu que ça soit CFTD, FO ou tout, mais ils ne se sont pas proposés. C'est trop tard maintenant. Mais Sud, oui, mais ils ne sont pas venus. Vous êtes des... Mais ouais, toi, à toi, t'es là, mon accord. Mais t'es, c'est bien, t'es multipiste.
Non, mais après le show, là, c'est difficile. Le show du psychanalysé. Oui, moi, je pense qu'effectivement, il faut rester dans le concret de l'action. Parce que c'est vrai que si on part dans des concepts généralistes, on en a plein en France. On a des sociologues de la culture, il y en a plein. Ils nous expliquent tout ça, il n'y a pas de problème. Bourdieu a expliqué la distinction. Aujourd'hui, il y a Bernard Lahire qui parle du jeu. C'est-à-dire, c'est très intéressant ce qu'il dit, la question du jeu. Ça revient un peu à ce que dit... D'ailleurs, Bernard, il y a de l'interstice entre les individus, entre les classes sociales, entre les rapports de pouvoir, etc. Et c'est évident, mais la distinction, on sait, les pratiques culturelles, c'est la distinction, se montre, etc. Mais la question, c'est l'action, c'est aujourd'hui comment on agit. Si on passe plein de temps à faire on sait au passant ce qu'on a fait, et Thomas est là, pour faire des dossiers. C'est-à-dire que si on passe tout son temps à faire des dossiers pour justifier un pied après l'autre, si on passe son temps, parce qu'il y a des normes sur les chiottes, sur la distance par rapport quand on installe un chapiteau avec les pompiers qui arrivent, etc., qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et donc, c'est tout ça, c'est sous le principe de la sécurité, sur le principe de la légalité, de la norme, qu'on n'arrive plus à rien faire. On est complètement coincé. Et pourquoi les politiques demandent ça ? C'est tout simplement parce qu'il y a des responsabilités juridiques. C'est tout. C'est que tout le monde se couvre, plus personne prend de risques. Voilà. Donc, c'est tout. C'est concret. Alors, ici, c'est un risque. C'est un risque parce qu'aujourd'hui, on est dans les entreprises culturelles. À partir du moment où on est à un certain niveau, il faut faire de la gestion. On est dans la gestion culturelle, c'est ça le concret. Et que, mais comment on fait pour, parce que si on a un emploi jeune, si on a un emploi, comment on fait pour continuer ? Donc il ne faut pas se masquer avec l'argent privé d'un côté, puis l'argent public qui serait extrêmement pur, etc. Non, dès qu'on a 4 sous... Ah, c'est les punks ! Voilà. Donc je pense que... La seule question, c'est continuer à faire... Par exemple, continuer à faire Uzest. Comment on fait concrètement pour continuer à faire Uzest malgré tout ? Ça, c'est une question vraie. Autrement, on est dans la pseudo-distance de la vie et puis on va continuer à se masturber la tête pendant longtemps et on ne va pas avancer. Voilà, c'est tout.
Quand même, moi, je crois que si on est tous acteurs culturels parce qu'on a tous une culture et des cultures différentes, on n'est quand même pas tous acteurs. Être acteur, c'est quelque chose de concret. L'engagement, quel qu'il soit, à différents niveaux, c'est quelque chose de concret. Moi, je voudrais revenir sur la question de démocratie. Parce que on a notre culture nous a fait croire que démocratie, c'était une utopie au sens où des utopies du 19e siècle. C'est-à-dire une formule toute prête, un modèle qui doit marcher. Et à l'intérieur de ce modèle, tout va s'arranger parce que tout le monde y sera. Voilà. Sauf que la démocratie culturelle en question, dont on essaie à laquelle on essaie de réfléchir, c'est pas un modèle, c'est quelque chose qui se construit. Et donc, comme c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui va se transformer. C'est comme l'identité. On n'est jamais le même, on se construit toujours différent, on a toujours une identité qui va évoluer. Et la démocratie, elle est en construction et elle est évolutive. Donc, c'est pas un modèle. Et ça, si on n'a pas... Il me semble que si... on n'a pas cette idée en tête, on reste dans les fatalités que tant qu'il n'y a pas la démocratie décidée, c'est pas bon. Hein? Moi, ça m'inquiète. Les Sahraouis sont sympas, mais ils viennent dans un pays démocratique, ils viennent voir la liberté. Bon, mais ceci dit, la démocratie, c'est quelque chose qui se construit. Et si elle ne se construit pas avec tous, c'est pas une démocratie culturelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on nous a dit que la démocratie, ça se construisait tous ensemble. Eh bien, moi, je dis que ça ne se construit pas tous ensemble. Parce que ça se construit par tous. pas pour tous, oui, mais par tous. Mais pas forcément au même moment, pas forcément tous ensemble, pas forcément sur le même lieu géographique, pas forcément à un même moment de sa vie. Ça peut se construire effectivement quand on est dans une entreprise et qu'on revendique, ça peut se construire quand on est sur un festival, etc. Ça peut se construire quand on est dans la banlieue et qu'on essaye de mettre autre chose en place, ça peut se construire quand on est un chercheur et qu'on essaye de faire partager l'éthique sur la science, etc. C'est pas forcément ensemble. Le tous ensemble, il est extrêmement séduisant, extrêmement intéressant et moi j'aime bien l'entendre et le pratiquer. Mais c'est jamais tout le monde en même temps. Et quand on a des actions, par exemple, moi je suis à l'UGICT, alors on nous a dit, au syndicat, à la CGT, vous organisez les cadres pour faire des trucs à part. Non, c'est parce qu'à un moment donné, on peut avoir des actions dans un endroit, dans un secteur, avec une telle catégorie de personnel. Et c'est pas pour autant que ça va pas être une convergence avec tout le monde. Donc le tous ensemble, il faut qu'on le relise. Il faut qu'on relise la question, et ça revenait un petit peu à la question que tu posais au départ, la culture bouillie de tout sens, de tout le monde. Moi, je crois que ce qu'on a à travailler et à comprendre et à essayer de... Enfin, je dis pas vous, hein, je dis nous, hein, c'est la question de la pluralité et de l'unité. Parce qu'à un moment donné, on a besoin d'une pluralité qui agisse chacun à un endroit. Moi, je suis bien contente qu'il y ait ce festival-là. Je pense qu'il y a des choses qui se passent qui vont se passer ailleurs avec d'autres personnes qui vont faire monter le niveau de conscience, qui vont faire monter le niveau d'engagement. Peut-être petit niveau d'engagement, peut-être très grand niveau, on n'en sait rien. Mais tout ça, c'est des engagements culturels, c'est ça l'important. Mais à un moment donné, la question de l'unité, elle reste posée. Donc pour revenir au hiatus et au paradoxe, on est toujours la démocratie, c'est pluralité et unité. Démocratie culturelle, c'est ça. Alors comment on se démerde avec, voilà. Ah ben on ne peut pas séparer l'action de la réflexion et de l'engagement. Et de la vie. S'il n'y a plus d'action, il n'y a pas de vie. Donc on est mort.
C'était pas notre guerre, on la voulait pas celle-là.
Juste un mot là, je te passe le truc là. Quand même, moi, je suis pas prêt à ce que la démocratie finisse. Mais Uzest, je me demande comment ça va mal finir. C'est pour ça que je reste. Mais oui, parce que ça, un jour ou l'autre, ça va finir. Ça finit même chaque année. Ce soir, c'est fini, non? Ça continue demain, non? Donc, ça finit toujours mal le truc. C'est-à-dire que c'est une aventure qui a sa fin elle-même. Simplement, cette fin, elle en appelle à d'autres choses. Et je pense que si on ne se pose pas la question comme ça, on finit dans un discours qui n'est pas vrai sur le rapport à la vie. Ça finit mal, la démocratie, donc il faut s'y mettre pour que ça dure. Et Uzest, ça peut très mal finir, donc c'est très intéressant, il faut que ça dure.
Non, je voulais dire un tout petit mot, vous rappeler pour alimenter le débat, il y a un tout petit livre de Robert Redeker, le copain de Toulouse qui m'a énormément aidé pour faire tenir debout le Prato. Peut-être qu'il n'est plus debout, ça fait 30 ans qu'il existe aussi, ce Prato à Lille. Théâtre international de quartier, le seul en France en préfiguration. Ce qui veut dire qu'on en appelle à des liens de ça, qu'il y a peut-être des fédérations à inventer de l'action. Ça, je vais y revenir après. Il y a un tout petit livre qui s'appelle « Aux armes citoyens ». Mais vraiment, si vous avez l'occasion, c'est une mine d'or de réflexion sur quelques pages, en particulier sur les questions que vous vous posez là. Et en particulier sur la notion d'antre et sur la notion, Redeker dit qu'inlassablement la culture veut s'adresser aux exclus et lui il parle des inclus et il passe son temps à se demander justement le lien entre les deux et il dit que en fait quand un poète, quand un jazzman, quand quelqu'un va au fond du fond du fond de sa recherche, de sa création, il rejoint l'exclu et que par contre quelquefois celui qu'on n'arrive pas à toucher c'est l'inclus. Moi, j'ai des exemples en quantité, des anecdotes quand vous voulez à Lille. Ça fait 30 ans, ça fait 15 ans qu'on invite des chapiteaux, qu'on se bat pour que les chapiteaux aient le droit d'être à Lille. C'est une bagarre, qui est une lutte en permanence avec la copine Titine. C'est pas la même. Je vais perdre le fil de mon idée. C'était pour vous dire que ces fameux inclus en question, moi, c'est des gens que je côtoie. Par exemple, on invite du jeune cirque, forcément, il y a des blessés, forcément, on va chez l'ostéopathe. L'ostéopathe, Bataclan, super mec, tu vois. Chaque fois, il me fait la même phrase. Alors, ça marche toujours, les clowns, ça existe encore? Mais oui, mais vous rigolez, mais c'est authentique. C'est à 15 mètres du Prato. C'est à 15 mètres. Alors que dans le même temps, mon président du Prato, qui s'occupe de 40 nationalités différentes dans son officine de médecin, où il y a tout le monde se côtoie et tout, ces gens-là viennent au Prato. Enfin, je veux dire, parce qu'ils viennent au chapiteau. Parce que ça, c'est si je veux faire des chapiteaux, il y a une autre raison. Alors, la démocratie culture, bon, c'était pour vous rappeler d'abord ce petit livre-là, L'Armatan. Et la deuxième chose, je voulais rebondir là-dessus, parce qu'on n'en entend pas assez parler. Hein. Moi, je suis aussi hanté par pratique de la théorie, théorie de la pratique, Gramsci, ça m'a toujours aidé. Mais dans le sens que je n'ai pas décidé de faire ce que je fais, je n'ai pas décidé d'improviser ce que j'improvise là, c'est une façon de me relier avec les rêves. C'est une façon de me demander comment je peux tenir le coup d'être là vivant maintenant. Hein, Pontalis, il cite une phrase d'un enfant de 3 ans, les rêves, c'est quand ça reste dans la tête, les cauchemars, c'est quand ça vient dans la chambre. Bon, là, le cauchemar, il est là, on l'a, le cauchemar, on y est. Moi, je n'ai pas choisi de faire rire, ça m'est tombé dessus. Je n'ai pas choisi de faire une ingénierie culturelle, je n'ai pas choisi de ça. Seulement, il y a 30 ans, le Prato n'avait aucune subvention, on n'en demandait pas et on disait, c'est des salauds, ils nous en donnent pas. Alors on était contents de nous, on était fiers, on allait à mort, à fond dans le mur. Maintenant, j'ai appris autre chose, je vous l'avoue franchement. Le Prato est une entreprise poétique, je m'appuie toujours, poélytique et tout, je m'appuie sur ici bien sûr, mais c'est une entreprise, c'est-à-dire que, ô gens de gauche, ô peuple de gauche, ô artistes, ô gens de la culture, ô, on se mouille, on est complètement dedans, je travaille avec l'administrateur, j'essaie de faire rire le commissaire aux comptes quand il vient, j'essaie de... Oui, c'est vrai, il m'a même invité à improviser. Bon, c'est vrai que je fais de la culture populaire, de paillasse, c'est vrai. Et inlassablement, du coup, chaque année, on ne sait pas si le Prato va tenir le coup, chaque année. On a simplement décroché une reconnaissance il y a 3 ans que j'ai rédigée moi-même pour être une scène, je ne sais même plus comment elle est, conventionnée pour les arts du burlesque. C'est moi-même qui l'ai rédigée. Et j'ai expliqué à la DRAC que le burlesque allait très, 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 très loin. Il va de la danse contemporaine à la recherche et tout. Et l'autre jour, elle m'a dit, mais ça ne fait pas rire du tout ce que tu fais. Mais je dis, oui, mais c'est pas grave. C'est pas explicable. J'ai même fait le clown avec Bernard Lubat à l'Opéra de Lille récemment. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je suis dans l'action. Et si je vous parle de ça, c'est pour avoir un petit peu de grain à moudre pour tout à l'heure. Oui, ce qui me chagrine quand je dis aux gens de la culture ou tout ça, c'est qu'il n'y a jamais personne qui veut me parler du pognon. C'est l'inverse là, de ce qu'on vit ensemble ici, où c'est transparent, on essaie de l'être et tout, vous le faites. Moi, souvent, je rencontre, là, par exemple, cet été, un dernier exemple, je pourrais parler des heures après comme ça, mais ce n'est pas ma fonction, je dois faire rire normalement, je suis désolé, je suis sérieux. Mais, quoique j'ai toujours pensé que les deux sont liés, mais bon. Par exemple, à Avignon cet été, on est avec les copains du HOF, la région Nord-Pas-de-Calais, c'est elle qui nous paye le lieu, qui nous paye tout. Bon, ça vient d'une action militante qui a été menée déjà il y a 15 ans, par le Prato en particulier. Là, je m'adresse aux jeunes compagnies qui étaient là, je les regarde, je dis, non, les intermittents, vous êtes revenus dans le HOF et tout, je croyais qu'on n'y allait plus venir, il y a un moment des grèves, on avait dit changeons tout, etc. Et puis on fait un débat, je leur demande pourquoi ils sont là. Les gens de théâtre, hein, me disent pour la reconnaissance. Je dis, mais la reconnaissance de quoi? De qui? Parce que là, inlassablement, on voit le petit ver qui arrive. C'est quoi le petit ver? C'est la fameuse verticalité, la fameuse hiérarchie. Et on veut être le premier, et on veut être. Puis alors après, quand vous le voulez, pas en public, j'ai passé 100 jours à jouer les barbares et j'ai traversé plein de scènes nationales où j'ai payé le billet de Bernard Lubat à Bordeaux, d'ailleurs, il ne le savait pas, parce qu'on ne voulait pas de lui dans la soirée. Et donc, c'est authentique, je peux raconter des choses authentiques. J'ai traversé je ne sais combien de lieux de culture. Il y a des boutiques où ça bosse, on le sent dans l'accueil, on le sent de l'accueil, de la première personne que vous rencontrez, jusque dans la loge, jusque partout, jusque l'accueil avec le public et tout ça. Et il se passe quelque chose. Il y a des boutiques où on ne fout rien. Mais par contre, pour ne pas être tragiquement triste ou tout ça, démocratie et culture, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, si je me ressouviens de quand on est né il y a 30 ans, mais il y a des moyens. Mais il y a un boulot qui est mené énorme. Il y a plein de choses qui se passent qu'on n'avait absolument pas comme outil. Donc, ce qui m'interroge plus et ce qui me fait mal, c'est ce qui est dans la tête de vouloir toujours être le premier de la classe. Et qu'on n'arrive pas. Et la dernière chose que je voulais vous dire, mais ça, j'en reparlerai en improvisant, ce sera mieux de le faire en improvisant. Il y a une chose aussi qui me frappe, c'est l'envahissement médiatique d'un comique rentable et qui prétend qu'il ne dit jamais rien que pour rire. C'est quand vous y pensez, jour après jour, heure après heure, il y a des zigotos qui occupent tout le champ. Et avant, il y avait des gens qui nous faisaient rire. Bon, moi, je sais pas, Jean-Jacques Vanier, Rollin, etc. Des tas de gens qui m'amènent de la nourriture, qui m'amènent quelque chose. Maintenant, on a le droit de dire, mais des blagues. Ouais, le petit four, ouais, les juifs, tout, on rigole. Ouais, c'est pour rire, mais c'est pour rire. Tout ce qu'on dit, c'est inlassablement, à longueur de jour, c'est pour rire. Alors que là, on tape justement sur ce fameux, vous parliez tout à l'heure, il est où le populo, comment je peux lui parler et tout ça. C'est peut-être d'arriver à se relier dans des cultures qui semblent improbablement liées. C'est ça qu'il faudra arriver à faire. Excusez-moi, j'étais long et je n'ai pas suivi un plan précis.
Moi, je voudrais dire un petit mot à partir d'une chose qu'on m'a rapportée ce matin. Un des assistants au concert d'hier soir, en sortant un peu avant pour des raisons qui le regardent ou qu'il était obligé de respecter, a rencontré trois jeunes qui en sortaient aussi. Puis ils se sont mis un peu à parler et les trois jeunes lui disent « on s'en va, c'est nul ce qu'on nous fait voir ici. Ça n'a aucun intérêt, on se demande pourquoi on vient. » Et il a dit, monsieur, il leur a dit, mais enfin, qu'est-ce que vous aimez ? Ben, Starak. Voyez. Je dis ça parce que même dans un lieu comme celui-ci, où il y a une exigence très forte, très haute, je ne parle pas de verticalité, là, je parle d'exigence, de rigueur, hein, on rencontre ce problème-là. Et dans l'exposé de François Corneloup, moi, c'est la question que j'ai entendue. Et il faut être clair, l'art n'est pas naturellement populaire. Parce que l'art, il parle d'inconnu. Et l'inconnu n'est jamais populaire. Et dans une société comme la nôtre, où la peur s'est installée, on a peur de l'inconnu. C'est pourquoi on a peur de l'autre. On a peur de l'étrange. Ajouter un R, ça fait étranger. Donc quand on me pose la question de l'art, qui n'est pas la culture ? C'est une dimension de la culture, mais ce n'est pas la culture. La culture, c'est l'héritage que la biologie ne nous a pas transmis. Hein, et qui se transmet par les parents, qui se transmet par l'école et par la vie, etc. L'art, c'est quelque chose qui est constamment en contradiction avec la réalité, ou en tout cas avec celle qu'on vit, ou en tout cas avec celle dont on a conscience. C'est donc, la question qu'il faut dire, c'est le courage de la création. Et aujourd'hui, on est dans une société où on veut démobiliser les courageux et où on flatte les lâches. Et c'est cette question qui est à résoudre. Alors, j'avais envie de prendre, parce que c'est ma manie, mais ce n'est pas de ma faute si je cite les artistes. C'est que ce sont eux qui me disent les choses les plus fortes. Et pour vous montrer que je ne sors pas ni de la cuisse de Jupiter, ni de l'université, mais je la respecte. Je me souviens d'un meeting au Vélodrome d'hiver, il y a longtemps, un meeting communiste. Duclos avait parlé, il avait terminé. « Allez, frères et sœurs de combat, allez !» Hein, vous vous rappelez, peut-être pour certains d'entre vous, encore que je vois beaucoup de têtes jeunes, frères et sœurs de combat, allez au-devant de la vie. Et comme le disait notre regretté camarade Paul Vaillant-Couturier, le communisme est la jeunesse du monde. Moi, je me rappelle de ça. Et aussitôt, il y avait un chef d'orchestre qui jouait, et il joue un morceau. Et moi, qui connaissais la musique, mais vraiment comme si j'étais inalphabète, je me penche, je dis, mais pourquoi il joue Kléber Colombe ? Parce qu'à l'époque, il y avait une publicité... Les danses polovziennes portaient Kléber Colombe. Et je vous assure que je n'ai jamais oublié ça. Parce que le chemin, c'est jamais une autoroute. Aragon disait, ce sont des venelles. Et sur les venelles, il y en a des accidents. Hein ? Alors donc, la réflexion des jeunes d'hier soir, une petite antériorité de ma vie, ça dit ça. Voyez ? J'ai essayé de la vaincre. J'y suis parvenu en partie, mais je me heurte toujours à de l'inconnu. Mais je voudrais vous dire deux, trois phrases d'artiste, parce que c'est ça le fond. Comment vivre sans inconnu devant soi ? René Char. La poésie, le luxe de l'inaccoutumance, seule l'inertie est menaçante. Saint John Perse. Quand l'homme a voulu imiter la marche, il a inventé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. Apollinaire. L'art est une blessure qui devient une lumière. Braque. La pensée avant d'être œuvre et trajet, Michaud. La création s'appuie constamment sur deux forces antinomiques, la mémoire et l'oubli, Pierre Boulez. Il y a tant de gens qui disent c'est la mémoire ou l'oubli. Non, c'est la mémoire et l'oubli. Et le grand dramaturge allemand Heiner Müller disait, comme on a la campagne, je trouve que c'est parlant, l'herbe même, il faut la faucher afin qu'elle reste verte. Il ne dit pas il faut l'arracher. Vous voyez, hein, et le dernier Villard, il faut avoir l'audace et l'opiniâtreté d'imposer au public ce qu'il ne sait pas qu'il désire. Ça, c'est le fond des choses. Il faut qu'on le fasse nôtre. Et dans tous les lieux culturels, même ceux qui sont institutionnalisés au point de cette, quelquefois médiocrisés, mais en tout cas bloqués, ils rencontrent aussi cette difficulté. Et c'est cette question qui nous, que l'on doit essayer de régler. Or, aujourd'hui, on se heurte à la peur. Pour moi, c'est la question essentielle. Hein, peur de ne pas avoir de boulot, peur qu'il y ait la guerre, peur de l'autre, peur de l'étranger qui habite à côté de chez soi. Si ça va mal, on a un bouc émissaire. C'est lui. Hein, c'est lui. Mais le problème, c'est, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que l'a dit François Corneloup, le comptable est le nouveau censeur. Le comptable, mais pas comptable comme ma mère quand elle faisait les comptes pour faire les courses, pour faire la cuisine. Non, le comptable financier, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le gestionnaire. Et alors, il y a un anglais qui dit « le comptable est le nouveau censeur, le comptable applaudit quand le parterre est plein. » N'est-ce pas ? Il aspire à un parterre plein. Et il pose la question « mais plein de quoi ?» Et c'est ça la question, voyez. Alors on veut résoudre, on voudra avoir une équation qui nous permette d'entrer. Non, c'est la confrontation avec l'autre. Enfin tous, on a été amoureux, on l'est encore, et je le souhaite pour tous. Qui c'est qui peut dire « je suis un homme » qu'au bout de tant et tant d'années, je connais ma femme? Non? Heureusement qu'elle reste inconnue. Non? Eh bien, écoutez. Alors, je trouve que c'est une chose importante. Vous voyez? Et deuxièmement, de quoi on... Là, on est bien, on est au chaud. Là. Il a plu un peu, mais enfin, on est au chaud. Et puis, on parle en étant exigeant et contradictoire éventuellement entre nous. Et c'est heureux, la société est contradictoire. Mais cet anglais, il ajoutait, nous devons dépasser ce besoin de faire les choses à l'unisson, psalmodier ensemble, fredonner ensemble de banales mélodies. Ce n'est pas la collectivité. Le carnaval n'est pas une révolution. Après le carnaval, une fois les masques tombés, on est exactement comme avant. Après la tragédie, on ne sait plus qui en est. Je trouve que cet homme, il réfléchit très haut. Il dit aussi, c'est une erreur typique des comptables que de penser qu'il n'y a pas de public pour le problème. Parce qu'il ajoutait au début, l'art est un problème, l'homme et la femme qui s'exposent à l'art s'exposent à un problème de plus. D'aucuns veulent grandir dans leur âme. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Par conséquent, la tragédie est élitiste. Je dis ça parce que le mot élitiste, on lui tire dessus à plein machin. Mais celui qui a fait un progrès, il dit, merde, j'ai quelque chose que j'ai gagné, il n'est pas élitiste. Mais en tout cas, il a fait un pas. Il faut quand même le reconnaître et lui donner envie de continuer pour que soi-même qui est-on derrière, on continue à le faire. Et il ajoute, parce que l'on ne peut pas s'adresser à tous, autant s'adresser aux impatients. Mais parce qu'il y a une liaison entre les impatients et tous. Et moi, je suis d'accord avec le Prato. Enfin, le Prato, je nomme sa structure structure internationale de quartier. Hein? Eh bien, je suis d'accord avec lui. Merde, c'est parti, mais ça va revenir. Hein? Souvent, entre l'exclu et l'artiste, il y a des liens souterrains, non conceptualisés, mais qui portent fort. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre, ils ont mis le pied au fond de l'océan. Et ils sont en train de donner des tas de coups de jambes pour remonter à la surface. L'inclus, lui, il y est à la surface. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas malade. Ça ne veut pas dire que les normes et l'homme normal n'est pas un homme malade. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tant de revendications chez les précaires qui ne revendiquent pas la norme. Ils revendiquent autre chose. Et c'est pourquoi l'art et la précarité, parce que l'art, il est précaire constamment, se retrouvent par moments et même souvent. Vous voyez ? Enfin, je suis un peu bavard par nature, alors je ne veux pas continuer, mais je trouve que faut surtout les trois jeunes d'hier que m'a rapporté quelqu'un, moi je les trouve emblématiques de l'immense question que nous avons chaque jour à réinventer et à résoudre. Ça ne sera jamais fini. Villard, je le disais dans les débats du matin, il parlait d'un mariage cruel. Il allait même jusqu'à dire une danse de mort. Parce que l'engagement de l'artiste va tellement loin que c'est une souffrance aussi. Des fois, on dit « il crée dans la joie ». Tu parles. On ne crée jamais dans la joie. On est joyeux quand on a créé. Mais avant, c'est un effort. Et je terminerai par une petite histoire pour retrouver, disons... par exemple, moi, j'ai une institutrice que je connais depuis très longtemps. Et alors, elle me disait toujours, vous savez, à la maternelle qu'elle est, à la grande section... Elle me disait toujours, vous savez, quand on reçoit les familles, enfin, on a tous été à un moment ou un autre, jeune, enfin, moi, je parle forcément pour moi, qui ne suis maintenant que jeune, après vieux, hein, mais quand on a des jeunes, bon, on se marie, on a des enfants, ou on ne se marie pas, mais on a des enfants, ou on n'en a pas, mais enfin, on en a, et ils sont petits, bon, on leur achète des jouets en bois de préférence pour pas qu'ils se blessent, et on les emmène à l'école. Ils arrivent à l'école, qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent les mots, par exemple, train, par exemple, locomotive, par exemple wagon, ils ont appris ça tout simplement. Pensons, enfin, ils ont appris ça comme ça, par l'oralité du papa et de la maman. Ils arrivent à l'école. Au bout d'un moment, on leur met un crayon dans la main et on leur dit, il faut écrire. Et quand il écrit locomotive, c'est pas grand une locomotive, mais ça a 10 lettres une locomotive. Et quand il écrit train, c'est long un train, et ça a 4 lettres le train. Mais il se pose une question, un peu tragique le gosse, me disait l'institutrice. Pourquoi une longue chose se dit petitement et une petite chose se dit longuement? Il y a dans la langue qu'il faut respecter, qu'il faut inventer, mais il faut la parler au plus haut niveau, la langue. Hein. Il y a des choses fondamentales, n'est-ce pas, qu'il faut garder, qu'il faut faire vivre en avant. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'institutrice, devant ce petit drame? Alors moi, je lui disais en riant, vous n'avez qu'à faire comme Yvette Horner, vous prenez un accordéon et vous étendez train, ou alors vous concentrez locomotive. Mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, bien sûr. Et elle m'a dit, ma seule tâche, c'est de leur permettre à accéder à l'arbitraire du signe. On a tous été gosses. On s'en rappelle peut-être pas bien. Moi, je ne me rappelle pas, vous le dites. Mais n'empêche qu'on a vécu ça. Et on y est parvenu. Alors, pourquoi pas l'arbitraire de l'art? Parce que l'art est arbitraire. Vous voyez, c'est seulement ça que je voulais dire. C'est pourquoi, je ne sais pas si j'ai bien compris l'exposé de François Corneloup, mais en tout cas, sur un aspect que j'ai bien compris, c'est un peu la réponse que je donne. J'ai l'impression que c'était celle qu'il posait. On est à l'air de dire qu'il ne savait pas, mais il sait très bien.
Bon, je vais aller très vite parce qu'il paraît qu'on doit arrêter. Je voudrais rebondir sur deux choses. D'une part, ce que tu as dit, c'est assez énigmatique parce que tu as prononcé les deux mots, minoritaire et battu. Moi, depuis l'élection, ma première élection présidentielle de 1981, un an après, même dans la majorité, j'étais battu. Et je me considère plus jamais battu. Soit je suis dans la majorité, soit je suis dans la minorité, mais je ne suis jamais battu. Je referme la parenthèse. Par rapport à ce que toi tu as dit concernant les débats, les gens qui s'expriment, les gens qui ne s'expriment pas, je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais dans des discussions, des débats, ici ou ailleurs. Et c'est vrai que pouvoir s'exprimer et prendre la parole, c'est un acte. Et il faut avoir savoir le faire, des compétences et savoir parler en public. Je trouve qu'aujourd'hui, à partir du moment où on ne s'exprime pas forcément bien, les gens n'osent plus s'exprimer. Et c'est toute la différence avec le bistrot. C'est-à-dire qu'au bistrot, on a des gens qui parlent comme ils sont et comme ils savent parler. Et il faut pouvoir comprendre la parole de l'autre. C'est comme les langues étrangères ou les patois. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment donné à se comprendre, ou le langage des signes, tout simplement. Et je trouve que moi, j'ai eu des discussions. Enfin, j'ai assisté à des débats quand j'étais jeune. Je ne prenais pas la parole. Je prenais quelques notes de temps en temps, là, comme le voisin, et je ne comprenais strictement rien, mais je trouvais ça bien. Comme j'ai vu des spectacles où je ne comprenais rien, mais je trouvais ça beau et bien. Donc, je pense que... Alors, ça veut dire que, comme l'a dit M. Ralit, ça veut dire qu'effectivement, il faut apprendre aux enfants, enfin, et aux gens, parce que moi, je pense que on n'apprend pas qu'aux enfants, moi j'apprends tous les jours, et il faut effectivement savoir utiliser les mots et le sens des mots, et qu'il faut à chaque fois pousser la réflexion intellectuelle, si on peut s'exprimer comme ça, au plus haut niveau, de façon à ce qu'on puisse parler, en tout cas s'exprimer le plus juste possible, et surtout argumenter par rapport à une opinion. C'est-à-dire que c'est bien de savoir parler, mais si tu n'as que des opinions qui sont des opinions de masse, ça n'a pas grand intérêt. Moi, les meilleures conversations sur des sujets politiques ou syndicalistes ou de société, les meilleures conversations, en tout cas les meilleurs débats, je les ai avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que moi. Mais ça fonctionne qu'à partir du moment où humainement, on se respecte, on s'apprécie et on est capable de boire des coups ensemble ou de danser ensemble. ou d'aller voir des expansions, enfin bref, ou aller, d'aller acheter son pain chez le boulanger ensemble au même quartier, au même, à la même boulangerie. Voilà. Et je voulais, pour aller vite, je voulais rebondir aussi sur le Prato et Gilles. Une petite anecdote, j'ai entendu hier soir quelqu'un qui disait « Ah oui, Gilles de Farc, il est du Nord, mais il n'a pas l'accent ch'timi. » Bah, je dis non, il travaille dans les banlieues et dans les quartiers. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de langage ch'timi dans les quartiers. Voilà quoi. Et j'ai écrit un truc là sur le stand du Parti communiste français. J'ai mis « Est-ce que la rigolade est de droite ?» et l'humour de gauche.
Il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord, juste une anecdote, parce que s'il faut être compétent pour prendre la parole, eh ben je te dis, c'est pas vrai. Il y a un mec que je connais, c'était un truc du GFN, oui, mais quand même, on le sent, tu vois, éduquer. Bien sûr, il faut éduquer, mais quand même, ce mec, il était bègue, et c'était il y a longtemps. C'était les ateliers, les chantiers navals de Cassis qui étaient en grève. Et alors, on invite le GFN dans une université d'été, on invite un syndicaliste. Le mec, il était bègue et puis il parlait vraiment mal. Et à ce moment-là, il y a une femme qui a l'audace, une prof, qui a l'audace insolente, j'étais gêné comme ce n'était pas permis, de lui dire, mais quand même, quand vous parlez avec un patron qui est cultivé, qui a la culture avec le défaut d'élocution que vous avez, quand même, est-ce que ça ne vous pose pas problème ? Brut de coffrage, comme ça. Et il répond, vous savez, quand il y en a 5000 assis sur sa pelouse, il comprend tout ce que je lui dis.
Non, c'est un petit post-scriptum. Oui, non, c'est un petit poème que je vais vous lire, parce que vraiment, il est... Mais avant, en liaison avec ce qu'il dit là sur... c'est le problème de la dignité, vous savez. Et comme on a beaucoup parlé de responsabilité... Moi, j'ai été confronté avec un gars qui parlait de responsabilité. Il dit, c'est pas normal qu'il y ait des pauvres. Donc, il se penchait sur eux. Alors, je lui ai demandé à quoi ça consistait. Ben, il leur met du baume. Parce qu'au lieu de considérer l'homme ou la femme dans le pauvre, il considère le pauvre dans l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il cautérise le pauvre. Et il ne se rend pas compte. La douleur du pauvre, qui est indigne, isée par ce gars-là. Donc, la dignité, faux. Et alors, je voulais vous lire ce petit poème parce que il est... Ah non, ben après, on peut continuer. Même, c'est vrai, il y a des grands pauvres et des petits pauvres. Hein, c'est vrai, ça. Hein. Un petit poème, il est, parce que je le trouve extraordinaire, il est de Peggy. C'est pas un camarade, comme vous savez. Hein. Si ce marbre brillait de Carrare, que nous ne connaissons pas, mon cher Frittel, c'est un sculpteur, que nul ne connaît, que nul n'a jamais vu, à qui nul ne pense, si c'est ignoré, si c'est oublié, si c'est perdu, si c'est inconnu, si c'est tombé, si cet Italien de Carrier de Carrare avait seulement donné un coup de marteau de travers, il suffisait de ce coup de marteau de travers pour que cette décision irrévocable, notre maître, ce Carrier, notre souverain maître, décida pour l'éternité temporelle de ce marbre. Dans l'opération de l'ancienne matière, tout compte, et tout compte pour toujours, et l'ouvrier le sait bien. Tout est irrévocable, tout est indéfaisable, tout est impitoyable, donc tout est éternel. Et de là le respect. Tout coup porte, et un mauvais coup est vite donné. Tout mauvais coup porte, tout mauvais coup reste. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire une Vénus de Milo. Tout ce qu'il fallait, justement. Vous avez sur la table à côté tous vos outils, tant d'outils, dont non seulement moi, indigne, je ne connais pas les noms, mais que même je n'ai jamais vu ni connu. Enfin, tous ces outils qui ont déjà le tort que je ne les connaisse pas. Vous avez aussi ce qui n'est pas moins nécessaire. Vous avez votre génie dans votre ciboulot, dans votre cabochon, en cas de besoin. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez plus qu'à faire votre affaire. Il ne vous manque rien. Il vous manque encore ceci. Il ne vous manque plus que ceci. Mais il ne vous manque pas moins. Il vous manque encore ceci, qu'il faut qu'il y ait quelque part un ouvrier qui, dégageant ce bloc, ne l'ait pas rendu impropre à ce que vous en fassiez une Vénus de Milo. Je trouve qu'il dit des choses les plus fondamentales. Et, ma foi, moi, c'est un texte qui me fait rêver et même pleurer. Alors, je me suis dit, comme on est tous là, bien ensemble, eh bien, rêvons et pleurons si c'est nécessaire.
Voilà, merci.